À partir du premier verset du chapitre 6, texte sur lequel sera basée la prédication que nous apporte Raéric. Lorsque Sambala, Tobia, Geshem l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, sauf les portes, dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sambala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. » Et ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter, il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition. Et je leur retournai la même réponse. Une 5e fois, Sambala m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les peuples des régions environnantes que toi et les Juifs vous projetez une révolte. » Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir leur roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Je lui fis répondre « Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. » Et je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaïa et petit-fils de Méhétabel, qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria « Allons tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, et verrouillons-en les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. » Mais je lui répondis « Comment un homme dans ma position prendrait-il la fuite? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. » J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il avait prononcé cette prophétie pour moi parce que Sambala et Tobia l'avaient soudoyé. Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Alors, ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer. Mon Dieu, ne laisse pas Sambala et Tobia impunis pour leurs actes, ni Noadia la prophétesse, ni les autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. La muraille fut achevée en 52 jours, le 25 du mois d'Eloul. Lorsque tous nos ennemis la prirent, tous les peuples étrangers qui nous entouraient furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Et je laisse maintenant la place à Eric.
Je ne sais pas si vous avez pratiqué ce genre d'activité, mais quand on construit un château de cartes, il y a un moment absolument crucial, c'est à la fin, le dernier étage. Quand il reste 2 cartes à mettre, il faut être terriblement concentré. En général, c'est à ce moment-là que votre maman ouvre la fenêtre de votre chambre pour aérer et votre château tombe, dégringole, ou alors que votre grand frère, pour vous jouer un mauvais tour, pousse la table sur laquelle vous aviez placé votre château et tout tombe. Quand on arrive presque au bout, il y a un moment crucial, on risque que tout se détruise, et c'est extrêmement frustrant d'arriver au bout et que tout soit détruit. Quand on est tout près du but, on sait très bien que tout peut basculer. Et Néhémie, alors Néhémie est un personnage de l'Ancien Testament et nous faisons une série sur le livre de Néhémie depuis début septembre, Néhémie va vivre un moment du même genre. Il est impliqué dans un grand projet, c'est celui de construire, reconstruire les murailles de Jérusalem. Lui qui était à Suse, très loin de là, il reçoit cet appel de revenir à Jérusalem pour reconstruire ces murailles, non pas seulement pour la beauté du geste architectural, mais pour la gloire de Dieu à Jérusalem et dans les vies du peuple, de son peuple, du peuple de Dieu à Jérusalem. Parce qu'on veut voir dans ce projet non seulement la reconstruction des murailles, mais aussi la restauration des vies. Il est tout près du but, il touche au but, et le début du chapitre 6, nous l'avons lu, nous avons rebâti la muraille, il n'y a plus de brèche, il n'y a plus que les portes à poser. Sinon, c'est fini. Et donc, Néhémie se trouve dans cette période cruciale, tout près d'avoir fini, mais pas encore tout à fait, et c'est à ce moment-là que les adversaires de Néhémie vont choisir, que les adversaires de Néhémie vont choisir pour lancer comme un baroud d'honneur. Vous vous souvenez, au chapitre 4, pour ceux qui étaient là en tout cas, déjà, Sambala et ses sbires vont s'opposer à Néhémie par le mépris et par la conspiration. Ils soufflent sur ces murailles de Jérusalem pour qu'ils abandonnent le projet. Mais aujourd'hui, et plus subtilement, ils vont utiliser des moyens inédits pour bloquer le projet de la gloire de Dieu à Jérusalem et dans les vies de ceux qui y habitent. Et ils vont utiliser la diversion. Le titre du message de ce matin, c'est « Diversion en tout genre ». Diversion, ils vont chercher à divertir Néhémie du projet qu'il a. Ils vont chercher à faire diversion pour détourner Néhémie du projet qu'il a pour Dieu. Du rêve qu'il a pour Dieu. Bon, quand on parle de divertissement, moi je pense souvent à Blaise Pascal, 17e siècle, un mathématicien. Vous savez qu'à 19 ans, il a inventé la calculette, la pascaline, 19 ans quand même, et puis aussi la presse hydraulique. Il est le père du calcul des probabilités, et surtout, il est un chrétien convaincu avec une conversion extraordinaire. Et un théologien, et dans ses pensées, vous savez d'ailleurs que le pape François veut béatifier Blaise Pascal. Ce serait dommage parce qu'il est là, à la portée de tout le monde, Blaise Pascal. Mais pour dire que c'est quand même quelqu'un, et dans ses pensées, il parle du divertissement. Au XVIIe siècle, il y avait des divertissements. Les gens jouaient beaucoup. Il y avait la chasse aussi. Et Blaise Pascal parle de ces divertissements dans son double sens. Divertissement qui apporte du divertissement, mais qui fait diversion aussi. Et qui nous empêche, ou qui empêche les gens du XVIIe siècle à se poser les vraies questions, à revenir à l'essentiel, à avoir une réflexion sur eux-mêmes. Faire diversion, divertir. Et quatre siècles après Pascal, nous sommes toujours dans la même ambiance du divertissement qui peut faire diversion. On se croit peut-être à l'abri, mais nous devons reconnaître que nous sommes souvent détournés, divertis, et qu'on termine rarement notre château de cartes. Et quand nous sommes sans cesse détournés ou divertis, on va avoir cette pénible impression dans notre vie de manquer de continuité ou tout simplement de cohérence. On a l'impression que notre vie est faite de zigzags, de détours, de chemins de traverse. Les diversions sont nombreuses. Et il nous faudrait comme un détecteur de diversion. Et il semble que Néhémie en avait un. Et la première de ces diversions prend la forme d'une conférence au sommet. Les ennemis connus de Néhémie, les fameux Sambala, Tobia et Geshem, proposent une conférence. Sambala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Et donc certainement une conférence pour trouver un arrangement à l'amiable. Mais Néhémie sent le piège, d'abord parce que la plaine d'Ono se trouve tout près des territoires de Samarie et d'Ashdod, territoires étrangers, et c'est un endroit rêvé pour faire disparaître le gêneur Néhémie. Ensuite, parce qu'il le sent très fort, cette tentative de diversion, le ton est pressant. « Viens, ayons une entrevue, » disent-ils. « La priorité est à la discussion. Il est urgent de ne plus rien faire concernant les murailles. Il est urgent de s'arrêter de construire les murailles. Il faut discuter. » Mais cette diversion ne prend pas parce que Néhémie est un sixième sens et il a le sens des priorités. Le ton peut être pressant, même amical, il dit non à cette conférence au sommet parce qu'elle est une fausse priorité. Je leur envoyais des messagers pour leur dire « J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » Néhémie sait qu'il est là pour bâtir les murailles de Jérusalem et rien ne le fera dévier ou ne le fera se détourner de ce grand ouvrage, de cette priorité absolue. Et il est ferme, 4 fois on lui envoie le même message, 4 fois il donne la même réponse, « Ma priorité ce sont les murailles. Pourquoi l'ouvrage sera-t-il interrompu par une priorité qui n'en est pas une ?» Et il fallait que Néhémie soit vraiment au clair par rapport à ses priorités. Et il l'était. Il avait depuis longtemps une conscience claire de sa priorité, de la priorité de sa vie, la reconstruction des murailles de Jérusalem et la restauration des vies des habitants de Jérusalem, une priorité pour Néhémie. Jésus, lui aussi, avait une conscience claire de ce pourquoi il était là. Il était là pour la croix. Il était sur terre pour la croix. Pour aimer jusqu'au bout. Pour aimer comme un serviteur. Pour aimer jusqu'à prendre notre place. Et c'est là son grand ouvrage, son œuvre. Son but, sa priorité des priorités. Et quand au début de son ministère, il est tenté par le diable dans le désert, le diable essaie de faire diversion. Le diable, c'est le divertisseur public numéro 1. Et la tentation est subtile, car il essaye de manière différente, mais à chaque fois, de détourner Jésus de son œuvre, de sa priorité, de la croix. Et la dernière tentation est la plus insidieuse. « Tu peux avoir, dit le diable, tous ces royaumes si tu te prosternes devant moi. » Et la tentation, diversion, est subtile parce que Jésus peut légitimement prétendre à la royauté sur les royaumes de ce monde. Il est le roi des rois. Mais la tentation, diversion de l'adversaire, c'est de lui faire obtenir ses royaumes sans passer par la croix. Et Jésus dira fermement non à plusieurs reprises, parce qu'il avait un projet, il avait une chose à faire, il avait une mission, un objectif, un but, la croix, le salut de l'humanité. Et à la fin de son ministère, Jésus dit en pensant à la croix, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, l'œuvre de la croix. » Jésus savait pourquoi il était venu. Et après Jésus, il y a Paul, aussi l'apôtre Paul, qui avait une conscience très claire de ce pourquoi il était venu et ce pourquoi il était appelé. Et il utilise à un moment, dans Philippiens, une expression extraordinaire. Il dit « Je fais une chose. » J'en fais pas 36. J'en fais pas 5. J'en fais pas 2. Je fais une chose. Et c'est dans ce passage où il parle de la course. Je cours vers le but pour atteindre le Christ et le prix qu'il m'a donné. Je fais une chose et pourtant j'ai des sollicitations et des diversions en tout genre, mais je fais une chose. J'ai qu'une priorité dans ma vie, une priorité qui englobe toutes les autres activités ou toutes les autres sous-priorités. Mais je fais une chose. Et ça, c'est le descriptif un petit peu de la vie de Paul. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours. Et on pourrait se demander quel est le descriptif de notre vie, ce matin, aujourd'hui. Est-ce que ce ne serait pas plutôt « j'essaie de faire beaucoup de choses » ou « je fais tout ce que le monde, tout ce qu'on me demande » ou « j'essaie de faire plaisir à tout le monde » Et bien sûr, il y a des quantités de choses à faire, il y a des quantités de sollicitations, il y a une vie professionnelle à mener, il y a une vie familiale peut-être dans l'autre sens, il y a une vie d'église, il y a des tas de choses à faire dans les différents domaines. Et pourtant, on ressent confusément qu'il nous faudrait quelque chose qui viendrait unifier tout cela, qui donnerait de la cohésion, de la cohérence à tout cela. Et qui donnerait une cohésion et qui viendrait englober toutes mes activités. Et je suis sûr qu'on a envie de dire, je ne fais une chose, je ne fais qu'une chose. Pour éviter de se perdre, pour éviter d'être sans cesse diverti, pour éviter d'avoir une vie faite de discontinuité, de rupture et de détour. Et le but unificateur de Néhémie comme de Paul, c'est de rendre gloire à Dieu dans nos vies, de rechercher les intérêts de Dieu, comme le disait Jésus dans son sermon sur la montagne, chercher premièrement le royaume de Dieu, faire de cette priorité la priorité de ma vie. De rester disponible à l'action de son esprit dans sa vie, voilà le grand ouvrage pour nous qui unifie notre vie malgré la pluralité des situations et des activités pour la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de cette unité de but, de cohérence dans la vie, et il nous faudrait détecter un petit peu les diversions que nous pouvons avoir dans notre vie, des fausses priorités comme Néhémie en a subi. Mais il ne s'est pas laissé divertir malgré les quatre lettres de Sanballat. Alors l'adversaire tente une nouvelle diversion et change de tactique. Sanballat m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations environnantes, que toi et les Juifs vous projetez une révolte. » Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir leur roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, les rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Et ici, la diversion, c'est les fausses rumeurs. Vous l'avez, on dit, les rumeurs, d'ailleurs le mot y est. On pourrait parler des fake news. Vous savez, le président machin des États-Unis trompe son monde, Trump son monde, avec ses fake news. Et maintenant, il les subit, alors il dit « c'est quoi ces fake news ?» alors que c'est lui qui a commencé. Bon. Un spécialiste des fake news. Et Sanballat était spécialiste. Bon, je ne veux pas faire le lien entre Trump et Sanballat, mais il fait aussi des fake news et il écrit une sorte de lettre ouverte, c'est-à-dire une lettre que tout le monde va pouvoir lire ou que tout le monde va pouvoir entendre. Le bruit se répand. Tu vas, dit-on, des rumeurs de ce genre. Et Sanballat ne parle jamais de lui. Il se fait l'écho de rumeurs, le relais des bruits qui courent. Ce qu'il veut, c'est bien sûr aider Néhémie. Viens, tu risques quand même gros là dans l'histoire. Viens, on va en discuter. Parce que ces rumeurs sont sérieuses et graves, elles touchent à l'intégrité, à la loyauté de Néhémie envers Artaxerxès, l'empereur. Et il y a un parfum de scandale et si ça continue, ça va passer dans les réseaux sociaux et ça va être compliqué. Et la rumeur, je ne sais plus où j'en suis dans les fausses rumeurs, les fake news. Et la diversion par la rumeur est très efficace et elle peut déstabiliser plus d'un. Elle fait des dégâts sur l'entourage de la personne, mais c'est au niveau de la personne elle-même qu'elle fait le plus de dégâts. La personne sait que ce n'est pas vrai, mais elle est déstabilisée par le fait que d'autres peuvent penser que c'est vrai. Et il y en a toujours pour croire aux rumeurs. Et c'est une pensée terrible, cela, que les autres puissent croire que ces rumeurs sordides sur moi. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant. Ça fait diversion par rapport au projet de vie qu'on a pour Dieu. Et c'est d'ailleurs le motif de Sanballat, le diabolique, il voulait me rendre craintif. Il voulait mettre une peur paralysante dans ma vie, une peur qui pousserait à l'abandon. Verset 9, il voulait qu'il perde courage, que nous perdions courage et que nos mains abandonnent l'ouvrage. Il cherchait à nous. Voilà. C'est écrit sur l'écran. Et Satan, l'adversaire de Dieu et des hommes, le destructeur des relations entre les hommes et les relations entre les hommes et Dieu, poursuit le même but quand il colporte des fausses rumeurs, des fake news. Du genre, tu n'es pas assez bon pour Dieu. Du genre, t'es quand même trop nul. Du genre, t'es tout seul dans la vie. Des fake news du genre, être chrétien, ça ne rapporte rien. Des fake news du genre, renie ta foi, ça vaut mieux. Des fake news du genre, tes péchés sont trop nombreux, et en plus tu recommences, tu n'es pas digne de Dieu. Vous savez, ces fake news qui envahissent nos têtes et qui viennent de l'accusateur de nos frères, comme la Bible le désigne Satan, l'accusateur de nos frères et sœurs, l'accusateur des chrétiens sauvés par grâce. L'adversaire, le spécialiste des fake news, du mensonge. De ses pensées, l'accusateur de ses pensées, le propagateur de ses pensées mensongères. Et il y a un livre qui en parle très très bien. Neil Anderson écrit dans son excellent ouvrage « Nouvelle identité pour une nouvelle ». Il écrit que ses pensées mensongères, culpabilisantes, tellement négatives, touchent à l'image que nous avons de nous-mêmes et à notre identité de chrétien. Alors que notre vie est cachée en Christ, alors que Christ a mis nos vies derrière lui et qu'il est mort et ressuscité pour nos vies. Et le but de l'adversaire est le même, nous divertir et nous faire abandonner le projet d'une vie à la gloire de Dieu, d'un renouvellement en Christ de cette image de Dieu en nous, une image qui a été déformée par le péché, mais qui est renouvelée par la puissance de l'Esprit de Christ. Et quand nous avons ces pensées mensongères en nous, ces fake news en nous, on a envie d'abandonner. Mais Néhémie n'abandonne rien ni personne. Il dit tout simplement, c'est pas vrai, ce genre de rumeurs n'existe pas, c'est toi qui les inventes. La puissance, encore une fois, de la vérité. On en parle souvent depuis qu'on a commencé Néhémie. La puissance de la vérité, qu'on peut opposer à l'adversaire. Non, la vérité de l'Évangile. La vérité qui bloque la rumeur, mais il faut dire qu'il ne change pas tout non plus, parce qu'on voit que Néhémie est impacté quand même par ces fausses rumeurs. Il accuse le coup, parce qu'il va prier, et là il s'en remet à Dieu. « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » C'est dire qu'il a quand même été touché. « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi, parce que ces fausses rumeurs m'ont touché. » On ne sort pas tout à fait indemne de ces campagnes d'insinuation. Et même quelqu'un du gabarit de Néhémie a besoin d'une force d'origine surnaturelle pour ne pas être mis au sol par le souffle de la rumeur. Je me souviens, en 1994, on fêtait nos 10 ans de mariage avec Yvonne, long time ago, et on a été à Cardiff suivre une conférence chrétienne. 3000 personnes avec un conférencier, on s'était déplacé pour lui et son église, l'église de Willow Creek, là-bas à Cardiff. Et il y a eu un temps de questions après une conférence. Et un temps de questions à 3000, quoi, 3000 contre 1. Et un individu a choisi ce temps de questions, le micro lui est arrivé, pour accuser l'orateur d'être un faux prophète. De l'accuser de chercher sa gloire personnelle. De l'accuser de chercher l'argent. Et il y a eu un énorme silence dans la salle, le souffle de la calomnie passait, et on s'est tous demandé comment allait réagir le conférencier. Moi, c'est simple, si j'avais été à la place du conférencier, je serais descendu de l'estrade et je lui aurais mis un pain dans la figure et j'aurais mis fin à son ministère et au mien par la même occasion. Mais le conférencier, un homme de Dieu, n'a pas fait cela. Et j'imagine qu'il a prié comme Néhémie, « Seigneur, fortifie-moi, donne-moi une inspiration. » Et il a juste répondu, « Écoute, si cela vient de Dieu, je le garde. Si cela ne vient pas de Dieu, je le laisse. » Et toute l'assemblée, 3000 personnes. Je pense qu'il avait été fortifié d'une manière surnaturelle pour ne pas être pris par le souffle de la calomnie. Quelle force dans cette réponse. Il faut compter sur la force du Seigneur et sur la puissance de la prière pour venir à bout de la rumeur qui vient de l'adversaire. S'approcher de Jésus et de cette vérité éternelle, de son amour pour moi manifesté à la croix. Et ne pas nous laisser détourner de cette vérité-là. Alors la diversion a encore manqué. Sambala doit se dire « caramba, encore raté ». Et il va essayer une dernière tentative. Sambala, dont la créativité n'a d'égal que sa haine pour l'œuvre de Dieu dans la ville, tente une dernière sortie, et c'est plutôt une rentrée. Il va faire rentrer un dernier personnage, c'est Shemaya, un prophète. Shemaya, qui s'était barricadé chez lui, s'écria « Allons tenir conseil dans le temple de Dieu au fond du sanctuaire et verrouillons-en les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. » On ne sait pas très bien ce que veut dire le mot « barricadé ». Peut-être qu'il était chez lui parce que par empêchement rituel, parce que Shemaya est prêtre, sacrificateur dans le temple à Jérusalem, et de temps en temps il prophétise, c'est-à-dire qu'il parle de la part de Dieu. Et cette troisième diversion est la plus subtile, car elle vient de quelqu'un de qui on attend du soutien, du prêtre quand même, c'est un prêtre. Il parle normalement de la part de Dieu, il donne une direction spirituelle que l'on respecte. Et on imagine que ce prêtre se tient du côté de Dieu et qu'il parle de sa part. Mais Néhémie, encore une fois, voit la diversion et dit « Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. » Parce que Néhémie sait que s'il rentre dans le temple, lui, un laïc, il va profaner le temple. Shemaya le sait, le peuple le sait, Néhémie le sait. Mais Shemaya l'invite quand même, et c'est donc un piège, une diversion, à entrer dans le temple. Et Néhémie, heureusement, fait preuve d'un discernement spirituel exceptionnel. Il sent la diversion sous couvert de spiritualité. Vient dans le temple spirituel. Et Néhémie dit, mais il avait prononcé cette prophétie pour moi, parce que Sambala et Tobia l'avaient soudoyé, ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché, alors ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer, disqualifier. Et ce terme, justement, me fait penser, encore une fois, à l'apôtre Paul, qui parlera du même problème aux chrétiens de l'église de Colosse. Et il parlera des tentatives d'intimidation à l'intérieur de l'Église, pour le chrétien, dans sa course de la vie chrétienne. Il parlera du légalisme qui est intimidant. Il parlera de l'ascétisme, vous savez, ces gens qui se privent de choses, qui est aussi intimidant et qui fait diversion dans la course de la vie chrétienne. Et il parlera aussi du mysticisme, Paul à Colosse. Et il va leur dire que personne ne vous mette hors course, hors jeu, ne vous discrédite, ne vous disqualifie sous prétexte qu'il a des visions ou des révélations de la part de Dieu. Oui, il y a des gens qui peuvent nous mettre hors jeu, hors course, en prétendant parler de la part de Dieu. C'est terrible, mais il faut le dire. Et cet épisode de l'histoire de Néhémie, en même temps qu'un exemple, nous lance un appel au discernement. Quand quelqu'un dit « J'ai une parole du Seigneur pour toi », cela ne veut pas dire qu'il est une parole du Seigneur. Quand un autre dit « Le Seigneur m'a dit », cela ne veut pas dire que le Seigneur l'a fait. Il faut faire preuve de discernement et le Nouveau Testament multiplie les appels au discernement. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et examinez les esprits dans le domaine spirituel pour voir s'ils sont de Dieu. Examinez toutes choses avec toujours le même verbe grec qui veut dire passer un test, un examen, une épreuve. Faire passer un texte, un examen, un test aux prophètes et aux prophéties et aux soi-disant révélations. Oui, le Nouveau Testament nous y appelle. Un examen qui passe par deux choses. Un examen par la parole, d'abord. Comme Néhémie connaissait les règles bibliques pour le temps, comme Jésus connaissait l'Écriture, pour répondre à l'adversaire, le diable, non pas pour faire un combat de versets bibliques, mais pour avoir une compréhension globale de l'Écriture, équilibrée, honnête, pleine de beau sens, de lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, et non l'inverse. Et comme, faire comme les chrétiens de Bérée qui, chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'examen. Et la deuxième chose, c'est l'examen fait en communauté. On s'aperçoit que les chrétiens de Bérée, c'est au pluriel. Ils examinaient ensemble les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils le faisaient ensemble, en communauté. Et il y a dans la communauté des dons différents de prophétie, de docteur, d'enseignant, de compassion, d'encouragement, d'exhortation, etc. Et ensemble, on peut faire cet examen des révélations, des prophéties, etc. Et il y a ce texte de 1 Corinthiens 14, vous savez, l'église de Corinthe partait souvent en live en ce qui concerne prophétie, révélation, etc. Et Paul dit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Les prophètes examinent les autres prophètes. Et nous sommes tous quelque part un peu prophètes. Mais on s'examine les uns les autres. Par la parole et et en communauté. » Et c'est notre responsabilité d'être plein de bon sens et de faire preuve de discernement pour ne pas succomber au chant des sirènes, aussi belles soient-elles les sirènes et aussi beau soit-il le chant des sirènes, ou à la musique des forains du spirituel. Et la musique des forains du spirituel est parfois très belle aussi. Il en va de notre course vers le but. Alors, moi je dis, il en fallait des ressources à Néhémie pour terminer l'œuvre qu'il avait commencée. Un sens de la direction pour ne pas tomber dans le piège des fausses priorités. Je fais une seule chose. Un cœur bien déterminé et bien ancré dans la parole de vérité pour ne pas être diverti par les fake news. Et puis un esprit de discernement pour ne pas s'égarer dans de fausses prophéties. Il lui fallait bien tout cela pour faire face aux diversions en tout genre qui le tentent de détourner du but. Mais au verset 15 retentit cette magnifique phrase qui fait du bien et la muraille fut reconstruite en 52 jours. En moins, si je compte bien, en moins de 2 mois. Et ça, c'est un accomplissement, mais le verset 16 est extra lui aussi. Et il dit, ils reconnurent, ceux des environs, qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Quel témoignage de la puissance de Dieu que cette muraille terminée en 52 jours, malgré les tentatives de diversion. Et tous ceux qui sont alentour, non-croyants ou en recherche, doivent reconnaître que c'est extraordinaire. Et tous voient la main de Dieu. Et je crois bien que nos vies peuvent faire le même effet sur ceux qui nous entourent quand nos vies ne sont pas parfaites, mais qu'elles sont au moins cohérentes. Quand il y a de la continuité dans notre vie, ou tout simplement de la fidélité, ou quand il y a un but unificateur, alors elle frappe l'attention. Et pas seulement, elle donne envie non seulement à ceux qui nous observent de l'extérieur, mais aussi à celui qui la vit de l'intérieur. Une vie non divertie, ça donne envie. Une vie comme celle de Néhémie, une vie disponible pour Dieu, chers amis, ça donne envie. Et j'ai envie de dire à la fin de ce message, chers frères et sœurs, ne nous laissons pas divertir. Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous sentons peut-être écrasés par l'exemple de Néhémie qui semble être le surhomme, là. Mais on pense que les qualités qu'il avait, c'est toi qui les lui as données. C'est toi qui les tiens en réserve pour nous, pour celle et celui qui en a besoin dans son projet de vie pour toi, pour ta gloire. Seigneur, donne-nous ce dont nous avons besoin pour poursuivre la course, pour ne pas nous laisser divertir, pour rester tendu vers ce qui est en avant. Seigneur, rends-nous disponibles, rends-nous disposés à construire notre vie pour toi. Donne-nous ton esprit pour pouvoir discerner. Donne-nous ta grâce pour pouvoir continuer, malgré les chutes, malgré les temps morts, malgré les détours. Par ta grâce, Seigneur, donne-nous de nous relever et pour continuer avec toi, avec l'aide de ton esprit, ton projet, le projet que tu as pour nous, un projet de paix et de bonheur en toi. Oui, Seigneur, fais de cette communauté ici à Cannes une communauté de disciples qui te suit. Au nom de Jésus. Amen.